Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de podcast La Pause Rédac. Je suis Lucie Rondelet, créatrice de formation rédactionweb.com et je pars aujourd'hui à la rencontre de Patricia Perello. Lors de cette interview, Patricia m'a raconté comment elle est devenue rédactrice web. Elle m'a expliqué comment elle gère ses missions, ses clients et son quotidien de femme active. Avec Patricia, une chose est sûre, on ne s'ennuie pas. Alors, avant de démarrer, on doit dire que tu as une chienne de 14 ans qui fait des bruits étranges derrière toi.
Oui, c'est donc, pas moi qui couine comme ça.
Ni ton ventre, au moins les auditeurs sont au courant. Alors, merci beaucoup Patricia d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Merci, je vais te
demander de nous parler de ton parcours et puis commencer par te présenter comme tu en as envie.
Ok, donc moi je m'appelle Patricia, j'ai 42 ans. Et je suis donc rédactrice web SEO depuis... Je me suis installée en fait à mon compte en octobre 2021 et j'ai commencé la formation en novembre 2020 en fait. Voilà. Donc j'ai fait la formation, j'ai vraiment pris le temps. Donc j'ai fait la formation Liberté avec le pack accompagnement. Et ça a été... C'est drôle parce qu'en fait c'est vraiment une formation... Enfin, je ne connaissais même pas l'existence de ce métier pour être honnête. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai tapé un jour la requête sur Google « Comment gagner sa vie en écrivant ?» et du coup, je suis tombée sur ton site web. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, j'ai commencé à regarder. Je suis évidemment vite tombée sur ta chaîne YouTube aussi. Et justement, ce sont les portraits de tes anciens élèves qui m'ont donné aussi envie de participer à ce qu'on fait aujourd'hui parce que pour le coup, moi, c'est ce qui m'a aidée à prendre ma décision. Et nos échanges aussi, bien sûr. Mais du coup, je me disais, c'est bien de rendre aussi un peu et de dire qu'effectivement, il y a deux ans, un peu moins de deux ans, j'étais dans cette situation-là où je me posais des questions sur j'y vais pas, je me lance ou pas. Et là, ben, j'y suis. Donc, et ça me plaît. Donc, du coup, je me dis, c'est bien quand même de pouvoir moi aussi témoigner du fait que, ben oui, c'est un métier qui permet de changer de vie. C'est vrai. Donc, voilà, c'est le cas. C'est ce qui m'est arrivé.
Alors, avant de te lancer dans la rédaction web, tu faisais quoi ?
Alors, moi, j'ai commencé par faire de la négociation immobilière. J'avais une vingtaine d'années. J'étais en agence à Biarritz parce que j'habite sur la Côte Basque. Donc, j'étais en agence à Biarritz et je me suis formée dans une école de vente à Paris. Donc, j'étais en alternance comme ça entre les deux. J'ai fait ce métier de commercial en immobilier pendant plusieurs années. Et puis ensuite, bon, je n'étais pas une foudre de guerre, je n'étais pas très motivée par les objectifs à atteindre, tu sais. Donc, mais j'aimais le contact avec les gens, ça a toujours été ça, j'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai quand même gardé ce truc-là et ça me sert aujourd'hui, finalement, ce métier de commercial parce que pour le coup, pour démarcher, autant te dire que vu les portes que j'ai prises, si je puis dire, quand j'étais en prospection, c'est vrai que le fait qu'on te dise non...
Alors, je précise que j'ai une grosse cicatrice sur le front parce que je me suis pris une porte il y a deux semaines, d'où le rire de Patricia.
Et donc, en fait, ça aide à relativiser, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ça m'aide aujourd'hui, en fait, dans ma prospection, dans mes démarches vis-à-vis des clients. Donc, je suis très relaxe par rapport à ça si on me dit non, sinon, et c'est pas grave. Donc, j'ai commencé par l'immobilier, j'ai arrêté au bout de quelques années. Et ensuite, j'avais envie d'autre chose, donc j'ai repris mes études, licence RH, Master Management des Ressources Humaines. J'avais même commencé un doctorat, mais du coup, j'ai arrêté parce que je ne suis pas mis d'accord avec mon directeur de thèse. Donc moi, je suis très passionnée par tout ce qui est... Enfin, j'aimais tout ce qui était le recrutement, le management, etc. Donc, c'était des thèmes qui m'intéressaient. Là aussi, l'emploi, voilà. Donc, tout ce qui est insertion professionnelle et tout. Donc, j'ai fait des études dans ce sens. J'ai travaillé aussi dans ce sens. J'ai été chef de projet dans les ressources humaines. J'ai été RRH aussi en remplacement, etc. J'ai été collaboratrice RH. J'ai travaillé à la Chambre de commerce en tant que chargée de mission dans les ressources humaines. Donc, j'ai eu un parcours un peu comme ça. Et j'ai aussi travaillé dans le milieu de l'insertion professionnelle auprès de travailleurs handicapés. Donc, c'était des personnes que j'accompagnais, qui avaient eu souvent des accidents de la vie et qui avaient besoin de se réinsérer dans l'emploi, donc un volet un peu plus social. Et c'était passionnant, mais difficile, mais passionnant. Donc, j'en ai vraiment retiré une très grande richesse, en fait. C'était vraiment, vraiment. Et alors, après, j'ai un peu pété un câble, en fait, parce que j'en avais un peu marre. Je ne cumulais que des emplois qui duraient qu'un temps, où je n'arrivais pas vraiment à trouver ma place, en fait. Ça ne convenait pas complètement à ce que je voulais. Et l'écriture a toujours été présente dans ma vie, puisque dans mes souvenirs, je crois que j'ai dû écrire ma première nouvelle à l'âge de 12 ans. J'ai déjà adoré ça, raconter des histoires et tout ça. J'avais déjà écrit un roman qui n'avait pas été publié, des nouvelles aussi qui n'avaient pas été publiées. Et dans la famille, en fait, je suis un peu la préposée des lettres en tout genre, etc. Donc, c'est moi qui rédige tous les courriers de tout le monde, des voisins, des amis, de la famille. Bon, bref, donc, je suis un peu la secrétaire de tout le monde, quoi. Donc, du coup... un jour, j'ai une amie qui m'a dit « t'as un truc avec les mots, il faut que tu essayes de faire quelque chose » et tout ça. Donc, c'est là où j'ai commencé à écrire des romans. Et mon premier roman a été publié en fin 2019. Voilà. D'accord. Donc, ouais, mon premier roman a été publié fin 2019. J'ai trouvé un éditeur, j'ai eu la chance de trouver un éditeur.
Hein. Pour avoir le titre et la maison d'édition.
Bien sûr. Ça s'appelle « L'ombre des immortels, mémoire de sorcière basque ». Et l'éditeur, c'est Kilika Édition. Voilà.
Je mettrai en description du podcast.
C'est gentil. Mais ouais, c'est un bouquin que j'ai sorti, que je voulais écrire depuis longtemps. Donc, c'est évidemment tout ce qui est inspiré de la sorcellerie au Pays Basque. Il y a vraiment une histoire très... voilà, ça fait partie du patrimoine culturel, en fait, du Pays Basque. Ici, cette histoire de sorcellerie, etc. Beaucoup de femmes ont été brûlées, etc. Et moi, j'étais vraiment très intéressée par ce sujet. Donc, j'ai fait des recherches historiques. Et j'ai été aidée par des historiens, un en particulier, qui est mythologue et historien ici dans la région. Et donc, j'ai fait un bouquin... Avec une base historique, pour moi, c'était important de respecter quand même l'histoire de ces femmes. Mais à la fois, je suis vraiment partie dans... C'est de la fiction, donc c'est vraiment un roman et un peu fantastique. J'aime bien le monde du paranormal, etc. Ça me branche pas mal. Donc, du coup, j'ai fait un peu un mix entre les deux et j'ai sorti mon roman fin 2019. J'ai fait mes dédicaces. Donc, j'avais des séances de dédicaces, évidemment. Et bim, Covid. Super. Mmh. Donc, tout s'arrête. Les boules. Et donc, du coup, voilà, pendant un an, ça a été un peu compliqué. J'ai repris les dédicaces après. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, mais je ne me vois pas du tout repartir dans le monde d'avant. J'ai envie de dire dans les ressources humaines, dans les bureaux, les horaires. Ça m'emmerdait, mais vraiment, je n'avais pas du tout envie de ça. Et donc, voilà, d'où la requête sur Google. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre tout en écrivant, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la rédaction web et que j'ai commencé. Voilà.
Ce livre t'a pris combien de temps? Parce qu'avec les recherches historiques, etc.
Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, parce que ce n'est pas un livre très épais. Il doit faire à peu près 150 pages, un truc comme ça. J'ai commencé en 2014-2015.
Ah oui.
Et j'ai fait des pauses, si tu veux, entre temps, tu sais, parce que je travaillais, donc c'était compliqué avec un job à temps complet, d'écrire et tout, parce que c'est vraiment, tu vois, un thème qui me happait vraiment, tu vois, j'étais vraiment focus dedans et ça m'entraînait vraiment dans un truc. Donc c'était pas évident de gérer, voilà, c'était vraiment deux mondes différents. Donc ça m'a pris 5 ans avec des pauses de parfois 6 mois, 7 mois, 8 mois, etc. L'écriture, à proprement parler, je pense que ça a dû me prendre 2 ans. Mais je suis chiante parce que j'écrivais, tu sais, c'est vraiment le truc de l'écrivain, d'écrire. Et je me disais, ouais, c'est pas mal et ça. Et puis, 2 jours après, je reviens, mais c'est de la merde. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a vraiment eu, j'ai mis du temps avant de l'écrire. Et même avant de l'envoyer à mon éditeur, je n'étais même pas sûre de l'envoyer. Donc, mais à un moment donné, il faut se lancer et je ne regrette pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait c'est aussi une casquette que j'ai, une casquette d'auteur. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc la rédaction web, écrire des histoires. Et j'ai aussi, depuis 3 mois, une autre casquette, toujours dans l'écriture. Je suis journaliste pigiste pour un média local. Voilà.
Ah, super.
Ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment...
Ça a un rapport avec la rédaction web. Est-ce que cette formation leur a plu? Tu écris pour le média en ligne ou le média papier?
Papier.
D'accord.
J'écris pour le média papier, en fait, et bon, tu sais, dans les médias locaux, en général, ils aiment bien les correspondants locaux, en fait, ils aiment bien les pigistes, ça leur apporte un peu de nouveautés, etc., ça alimente, en fait, le journal, et je crois que l'expérience, effectivement, de la rédaction web et de l'écriture aussi, je ne vais pas te dire qu'on me connaît ici, on connaît mon livre, par contre, si tu veux, donc, du coup, ça intéressait, voilà, cette casquette, mais ils m'ont dit, le journalisme, enfin, c'est autre chose, c'est pas la même écriture. Mais effectivement, ce n'est pas la même écriture. On n'aborde pas un article de presse comme on aborde un article de blog pour un... C'est tout, tu l'entends? C'est tout fait, la chienne?
Ah oui, je croyais que c'était une porte qui claque.
c'est Daika qui tousse. Et le journalisme, ben là, je suis plus sur l'aspect culturel. Voilà, je me plus tout ce qui est culture, l'art, etc. Voilà, donc je rencontre des profils différents et donc je jongle entre les deux. Voilà. Les deux sont assez complémentaires et les deux me plaisent en fait. Voilà.
D'accord. Ouais. Au niveau de la formation, de la pédagogie, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu t'es sentie?
Alors, moi, je me suis sentie super, super bien parce que j'ai été coachée par Audrey. Et Audrey, elle était vraiment super avec moi parce que c'était vraiment la pédagogie avec la douceur aussi. C'est quelqu'un de doux, en fait, hein, et qui est exigeant. Donc, j'ai aimé ce combo, en fait, des trois. Et du coup, elle m'a vraiment beaucoup accompagnée. Donc, j'ai aimé, en fait, la plateforme aussi. Elle était très agréable. On a le temps d'apprendre et on apprenait vraiment. Donc, et puis, on est tout de suite immergé, finalement, dans… on apprend tout de suite à écrire. On n'attend pas 6 mois pour commencer à écrire des articles de blog. Donc, c'est vraiment une formation qui est très professionnalisante et qui apprend tout de suite à travailler, en fait. Voilà, à rédiger pour le web. Et ça, c'est vraiment assez génial.
Toi, tes attentes par rapport à la formation, les questions que tu pouvais te poser avant de démarrer, c'était quoi? Tu t'en souviens de ces questions?
Ouais. Oui, ben, je m'inquiétais en fait, je ne savais pas si j'allais trouver des clients, je ne savais pas si j'allais pouvoir en vivre parce que moi le challenge c'était ça, hein, je ne me serais pas lancée si je n'avais pas l'espoir que je puisse en vivre, dégager de vrais salaires, etc. Pour moi c'était ça hein, qui m'inquiétait un peu. Et en fait, alors il y avait aussi la dimension web que je ne maîtrise pas, enfin que je ne maîtrisais pas ouais, spécialement en fait, hein, le web, bon, je n'avais jamais pensé écrire pour le web, tout ça. Mais c'est vraiment un apprentissage qui permet de faire les choses, de bien intégrer les notions, en fait. Et après, ça va tout seul, quoi. Je ne savais même pas si j'allais être intéressée, en fait. La question, en fait, c'était est-ce que ça va m'intéresser, cet univers-là du web? J'en savais rien. Je savais que j'aimais écrire, parce que j'ai toujours aimé écrire. Mais le web, honnêtement, je me rappelle, j'avais même écrit un mail à Charlène où je lui avais dit « Mais je crois que le web, je m'en fous. » Et elle m'avait dit « Ah, ben, si tu t'en fous, tu ne vas pas t'épanouir, quoi. » Et le fait est que bah non, on s'en fout pas, on rentre vraiment dans le jeu et puis on est content quand on voit que les sites de ses clients remontent dans les résultats parce que ça fonctionne. Quand on voit que ça fonctionne, c'est un vrai challenge. Donc du coup, maintenant, je suis au taquet, hein, je suis les trucs. Enfin, et mes clients sont contents, les clients avec qui j'ai commencé à bosser il y a un an, bah, ils sont toujours là. Donc du coup, c'est qu'ils doivent être contents d'une certaine manière. Donc c'est voilà, la question c'était ça, est-ce que j'allais en vivre et est-ce que ça allait me plaire en fait. Voilà.
Et quels sont tes clients aujourd'hui et comment tu les as trouvés?
Alors, donc mes clients, alors au départ, je me suis, comment dire, je fais partie d'une espèce de réseau sur Facebook, les femmes entrepreneurs, etc. Mm-hmm. Et donc j'ai commencé comme ça en disant à l'époque, tiens, j'ai besoin de m'entraîner. Parce que voilà, je fais une formation sur le web et tout. S'il y a parmi vous des femmes qui seraient intéressées pour avoir des articles de blog gratuits sur leur site web, je suis preneuse. Alors là, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un succès tel. Donc, j'ai dû avoir une trentaine de demandes de nanas intéressées.
Des articles donc, du coup, gratuits.
Ouais, oula, oula, on va se calmer là.
Finalement, donc, je l'ai fait payer.
Finalement, je suis devenue millionnaire, n'est-ce pas? Donc, je lance bientôt ma chaîne YouTube. Et en fait, du coup, d'ailleurs, j'avais mis un message sur le groupe Facebook en disant, bon, voilà, pour moi, j'ai trop, donc si ça vous intéresse, ces femmes-là, de ces sites web sont intéressées. Donc, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça. Ce sont des gens qui sont qui tiennent à une épicerie de produits basques, etc., de produits locaux. Donc, on les trouvait qu'en deuxième et troisième page sur des requêtes voilà, spécifiques. Et là, maintenant, on les trouve vraiment dans les premiers liens. Ils sont dans le top 5 sur pas mal de requêtes et tout. Donc, c'est cool. Oh. Et je travaille toujours avec eux. Mm-hmm. Et en plus, ils m'ont confié, elle, donc c'est un couple, et elle s'est lancée dans la formation de télésecrétariat. Donc, du coup, elle m'a confié toute la rédaction de ses articles de blog et la gestion de son contenu rédactionnel et tout. Donc, elle commence déjà à prendre aussi… La formation n'est même pas encore sortie. Elle a déjà son site web qui commence à monter, donc c'est cool. Et après, ça, c'est une volonté de ma part. Je me suis spécialisée dans tout ce que je connais, c'est-à-dire l'immobilier et la ressource humaine. Voilà. Donc, je travaille pour des clients, des agences immobilières qui sont dispatchées un peu dans la France. Et je travaille aussi pour un cabinet de management de transition. Et là, les articles de blog que je rédige, ce sont des articles qui sont destinés à des hauts dirigeants. Tu sais, le manager de transition, c'est le gars qu'on appelle… quand l'entreprise commence à couler et qu'il y a 100 000 collaborateurs à gérer. Donc, c'est des articles qui sont assez pointus, qui ne sont pas faciles à écrire. Et là, c'est un bon client, franchement. Donc, et lui, ça fait 2-3 mois qu'on travaille ensemble. Et il veut que je lui rédige un guide et tout ça. Enfin, voilà. C'est vraiment une relation de confiance qui s'instaure avec les gens. Et le fait est que les gens avec qui je travaille, pour la plupart en tout cas, sont restés. Je ne tourne pas avec beaucoup de clients, par contre. Alors, si tu veux, moi, mon truc, c'est que je ne veux pas avoir un gros client. Parce qu'un gros client, s'il se barre, il ne faut pas mettre tous les dans le même panier, quoi. Donc, je préfère avoir des petits clients, tu vois, de sorte que s'il y en a un qui arrête pour X ou Y raison, que je puisse pas être en train de... Enfin, voilà, que je coule pas, que mon truc coule pas, quoi, que je puisse continuer à fonctionner. Ce sera forcément plus facile de retrouver un petit client qui te donnait 200 ou 300 euros par mois que de trouver un gros client qui t'en donnait 2000, quoi, tu vois. Donc, je préfère fonctionner comme ça. Et puis, ma stratégie, moi, si tu veux, c'est que j'ai besoin d'écrire vite. Voilà, je veux écrire vite. Je veux pouvoir enchaîner aussi les articles parce que j'ai besoin de temps libre à côté pour le journalisme et aussi pour mes histoires à raconter, mes nouvelles, etc., mes projets littéraires, si tu veux. Donc, je veux vraiment que ce soit... Je veux trouver un équilibre entre ces trois choses. Donc, c'est pour ça que, stratégiquement parlant, j'ai choisi d'aller vers des directions que je connais. Je ne veux pas passer des heures à faire des recherches sur des thèmes que je ne maîtrise pas parce que, pour le coup, pour moi, je considère que ça me fait perdre du temps. Il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme ça. Je connais des rédacteurs web qui, au contraire, aiment ouvrir sur d'autres thèmes et c'est très bien. Moi, c'est mon truc parce que j'ai, si tu veux, mon projet, il est différent. Voilà.
Oui, c'est ce qui va être très intéressant avec cette série d'interviews, puisque là, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu à mon appel. Donc, tu es la première et il va y en avoir vraiment beaucoup là, ces prochaines semaines. Et justement, j'ai vraiment envie de mettre en avant vos différentes personnalités et essayer de comprendre comment vous vous débrouillez, quels objectifs vous avez, quelle organisation vous avez au quotidien aussi. Il y a des personnes qui veulent faire de la rédaction web pour arrondir des fins de mois. Il y en a qui veulent vraiment avoir un meilleur salaire en travaillant beaucoup. Il y en a qui veulent du temps libre. Voilà, il y en a qui se spécialisent. Il y en a d'autres qui veulent prendre un petit peu de tout et voir ce qui va se passer. Toi, tes journées, alors justement... tes journées ressemblent à quoi et tu travailles à 100% à domicile?
Alors, mes journées ressemblent à... Alors, tu vois, justement, j'ai été tellement, contrainte par ces horaires qu'on m'imposait, en fait, que je ne m'impose aucun horaire. Donc, c'est-à-dire que je commence la journée quand j'en ai envie, je vis seule, donc je n'ai pas d'impératif avec des enfants amenés à l'école ou que sais-je. Donc, si je me réveille, c'est rare. Enfin, si je me réveille à 11h du matin et que je commence à bosser à 2h, ce n'est pas très grave, en fait, parce que derrière, tant que le boulot est fait, j'ai mon planning, je travaille avec Notion, donc je sais ce que je dois faire dans la semaine, tout est indiqué, etc. Je fais mes petits chrome et machin, donc je m'organise comme ça. Et si je travaille jusqu'à 4h du mat, je travaille jusqu'à 4h du mat. Mais tant que le boulot est fait, peu importe à la rigueur comment c'est fait, il faut que ce soit fait, mais je ne m'impose pas d'horaire. Parce que je trouve que quand tu écris, il y a des moments où tu es inspiré, où tu es vraiment focus, etc. Et d'autres moments où il n'y a rien à faire, quoi. C'est pas possible de sortir de phrase. Donc, dans ces cas-là, je n'insiste pas, ça ne sert à rien. Je préfère, si tu veux, laisser poser ou faire autre chose et m'y remettre. Par contre, quand je suis vraiment inspirée, je suis hyper efficace. Donc voilà comment je fonctionne. Je ne m'impose rien, en fait.
Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'influence de ton cycle féminin sur ta productivité?
Pas du tout.
Ah d'accord, non. Parce que quand on dit il y a des moments où je suis inspirée, d'autres pas du tout, etc. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux, Instagram. On a Céline Michelot qui en parle beaucoup aujourd'hui, qui est une élève origamien. Et c'est vrai qu'à force d'en entendre parler, on peut être sensibilisé à la cause et finalement, effectivement, commencer à se rendre compte qu'on a des périodes où vraiment on n'a pas envie. À titre personnel, j'ai des périodes où je suis boulimique d'informations et vraiment très dynamique. Il y en a d'autres où, au contraire, j'ai besoin de me poser, de faire de la musique, de lire ou d'aller me promener. Et il y a vraiment des cycles comme ça. Alors, j'ai hâte d'interviewer des hommes, j'en ai pas beaucoup, mais pour essayer de voir eux s'il y a une différence et s'ils sentent des pics d'énergie ou d'inspiration par rapport aux femmes.
Alors, les pics d'énergie, j'en ressens. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon cycle féminin. Je les marque plutôt pas mal en termes d'humeur, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais pas si ça a une influence réelle sur mon travail ou quoi que ce soit, certainement, probablement. Mais après, voilà, j'essaie aussi, si tu veux, j'adapte aussi la difficulté à mon humeur, la difficulté de l'article que je dois rédiger. Donc, par exemple, hier, j'étais censée rédiger mon article sur le management de transition. Donc, c'est un truc qui me demande vraiment beaucoup de concentration, etc. Je n'avais pas une super nuit, donc j'ai préféré intervertir et faire quelque chose de plus simple, en fait, qui était, voilà, où ça ne me demandait pas une grosse concentration. Par contre, aujourd'hui, bon, là, il faut que je le fasse. Donc, cet après-midi, je vais rédiger mon article et parce qu'il faut que je le fasse comme ça. Donc, il y a quand même cette notion aussi d'échéance et d'impératif que je respecte, mais je m'organise un peu voilà, selon l'envie, selon l'humeur, selon le degré de fatigue et de concentration. Donc voilà comment je fonctionne.
Justement, quand tu as une deadline comme ça et que tu te sens fatigué, que tu as repoussé, mais que la deadline arrive, comment tu t'organises pour trouver la concentration et réussir à boucler ton article ?
Quand il y a vraiment un souci, déjà, ça me stresse un peu. Si jamais il y a une deadline comme ça qui arrive et que je sens que j'ai un gros article à faire, vraiment un truc important, si vraiment je ne suis pas inspirée, j'ai la chance de vivre près de l'océan, comme toi, hein, j'ai la montagne et l'océan. Donc, s'il faut, j'habite à 3 km de l'océan. Donc, s'il faut, hein, je vais faire une marche, etc., m'aérer la tête. Je fais un petit peu de respiration. J'y vais avec mes écouteurs. Je me cale comme ça sur le sable et je me détends, en fait. Quoi. J'essaie vraiment de détendre et après, je reviens. Ouais. Par contre, si vraiment ça urge et que je n'ai pas le temps d'aller à l'océan, je sais me donner des coups de pied, si tu veux, aux fesses. Donc, s'il faut, il faut. C'est comme ça, y a pas, tu vois, il faut être aussi à un moment donné. Donc, je le fais. Voilà, je le fais. Je trouve l'énergie du désespoir.
Est-ce qu'en temps de stress, justement, tu ne te trouves pas une énergie, une adrénaline qui fait que tu te sens beaucoup plus productive sur les dernières heures?
Si, je suis hyper stimulée, c'est hyper stimulant en fait. Oui. J'aime bien les challenges de ce style-là. Je pense que ça me vient aussi de mon passé de commercial, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, j'aime ça, le challenge et tout. Et à chaque fois que je prends un nouveau client, là en l'occurrence le dernier sur le management de transition, je sais que je m'adresse à un public qui est quand même, voilà, c'est des mecs qui ont, voilà, ouais, c'est des dirigeants, des hauts dirigeants qui ont 30 ans, 20 ans d'expérience, etc. Donc, moi, je n'ai jamais été manager de transition. Hein. J'ai eu des postes de manager, mais c'était vraiment des postes en dessous, quoi. Donc, moi, je suis abonnée à des journaux RH, en fait, des sites web spécialisés en ressources humaines. Mon client me donne aussi des sources. Et en fait, on fait un brief toutes les semaines d'un petit quart d'heure parce qu'il veut, évidemment... comment dire, apporter aussi sa patte, quoi, parce qu'on fait, voilà, on recycle de l'information, mais c'est aussi, lui, il a aussi envie d'apporter une touche personnelle. Et donc, on fait un petit brief d'un petit quart d'heure sur chaque article avant de commencer, et comme ça, voilà, je rajoute des choses, je personnalise en fait l'article selon ce qu'il veut dire et son expérience, quoi. Donc, voilà. Et voilà comment je trouve mes sources, je cherche beaucoup sur... Alors, j'ai un peu de tout. Je travaille aussi donc pour la gastronomie. Alors, la gastronomie, je suis passionnée de bouffe, donc autant te dire que ce n'est vraiment pas compliqué pour moi d'écrire ces articles. Je prends plaisir à écrire des articles sur la gastronomie. Donc ça, les sources, c'est pour parler des produits qui vendent, si tu veux. Donc, je raconte des histoires. Voilà. Puis j'aime raconter des histoires de toute manière. Donc, du coup, voilà, je brode un peu autour de ça aussi. Et l'immobilier, en fait, ce n'est pas tellement de la rédaction web qui me demande, c'est plutôt mes clients d'écrire des guides, si tu veux, à destination des acheteurs et des vendeurs. C'est plutôt des choses qui vont être des brochures qui vont être distribuées en physique dans les boîtes aux lettres, etc. Donc, c'est plutôt ça. Je ne fais pas beaucoup d'articles de blog pour eux, en fait. Donc, mes sources après, je fais attention de, bien sûr, les choisir sur le web, qu'elles soient fiables et de sites, sinon officiels, en tout cas, de sites fiables, on en a parlé. Ouais, c'est important quand même de ne pas raconter n'importe quoi.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux histoires que tu racontes autour de la gastronomie et tout. Il y a, on entend de plus en plus des gens qui disent que le SEO bride la créativité du rédacteur web. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, justement, moi qui écris des romans et des nouvelles et tout ça, si je me sentais bridée dans la rédaction, je pense que je ne serais pas épanouie dans ce métier. J'ai besoin d'un... La créativité, elle est dans mes romans, mes nouvelles, parce que j'invente des histoires. Je la retrouve aussi dans le journalisme, parce que je raconte des choses, mais du coup, j'apporte ma patte. Et en rédaction web aussi, parce que, en fait, pour la plupart, je n'ai aucun brief. On ne me donne pas de brief, en fait. On me laisse vraiment la possibilité de raconter ce que j'ai envie de raconter. J'ai souvent accès au Search Console, etc. De fait, donc j'arrive à voir ce quoi je peux écrire. Et autour de ça, on peut vraiment broder, raconter une histoire. Moi, je pars du postulat que... avant tout, c'est... Mais de toute façon, c'est comme quand on fait un concours d'écriture, souvent un concours d'écriture, c'est raconter le thème, j'en sais rien, moi, de l'été. Donc, il y a un thème à faire et à partir de là, qu'est-ce qu'on raconte, quoi. Donc, et c'est exactement pareil en rédaction web SEO. Finalement, bon, ben, on va sur la search console, on voit qu'on pêche un peu sur telle et telle requête. Mais qu'est-ce qu'on va raconter autour de ça en insérant ces mots? En fait, c'est un jeu, quoi. Il faut vraiment le prendre comme une espèce de jeu. Et autour de ça, bien sûr qu'il y a de la créativité. Moi, parfois, je vais chercher super loin mes articles de blog quand je parle de gastronomie. Pourtant, je parle de pâté, quoi. J'ai des articles à faire sur du pâté, tu vois. Il faut les pondre, les 800 mots autour du pâté, quoi. Donc,
C'est vraiment marrant que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, j'ai tourné plusieurs vidéos YouTube pour ma chaîne et justement, j'ai abordé ce sujet du SEO et de la créativité et j'ai donné exactement le même exemple que toi. Quand il y en a des concours avec des mots à placer, c'est un jeu, on s'éclate, on ne voit pas du tout ça comme une contrainte.
Ouais.
Au contraire, ce sont des jeux qu'on appelle créatifs.
C'est
et
ça,
oui, tu peux broder avec du pâté et des lavabos. Et des... voilà.
Et là, j'ai un test à faire sur le... Parce que j'ai prospecté une agence de stratégie digitale. Et donc, ils m'ont dit... Enfin, OK. Donc, j'ai un test à passer avant la fin du mois de juillet. Donc, le 31, c'est l'échange. Je dois leur rendre un article de 800 mots sur... Tiens-toi bien. Pourquoi le faux filet s'appelle comme ça?
Alors, pourquoi?
Écoute, je ne suis pas encore allée. Du coup, j'ai appelé une copine à moi qui est dans la cuisine. En fait, elle a fait un CAP cuisine il n'y a pas longtemps. J'ai dit, bon, écoute, pourquoi il s'appelle le faux filet, tu peux me dire? Et donc, du coup, elle me dit, ah, attends, elle m'a envoyé tous ses cours et tout ça. Donc, je n'ai pas encore été regardée.
Ça, c'est de la source fiable.
Ouais, c'est de la source fiable, exactement. Donc, parfois, ça peut m'arriver aussi. Tu vois, l'immobilier, ça fait un bail que je n'y travaille plus aussi sur le terrain. Par contre, j'ai des amis qui sont dans l'immobilier. Donc, mes sources fiables, ce sont les gens qui sont sur le terrain et... Je demande aussi à mes amis ou à mes connaissances, en fait, quand j'ai un thème particulier à traiter, d'avoir de l'info aussi réelle, j'allais dire. Pas forcément que de l'info qui vient du web, qui a été recyclée X fois, mais aussi apporter quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu personnalisé, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mes guides pour les vendeurs. J'ai des amis dans l'immobilier, dans les RH. Bon, moi, j'ai ma propre expérience aussi, j'en ai fait quand même pas mal et tout. C'est un chouette job, quand même, ouais.
Alors toi, avant, tu allais travailler, donc j'imagine dans une agence ou tu te déplaçais et tout ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de travailler à domicile et de gérer tes horaires et tes vacances?
C'est le pied, quoi. Je ne peux pas te dire mieux. Je me sens libre. Enfin, vraiment, je ne me suis jamais sentie aussi libre que depuis que j'ai pris la décision d'arrêter ça. Je vais te dire franchement, j'étais malheureuse, pour être honnête, dans ce milieu du salariat dans lequel je n'ai jamais réussi à trouver ma place. Et pourtant, ce n'est pas parfois d'avoir essayé. Hein. J'ai essayé plein de trucs, je ne rentrais jamais dans les cases. Soit je m'emmerdais, je partais, soit je ne collais pas. Et donc, soit je ne renouvelais pas mon contrat. Enfin, il y a toujours quelque chose qui posait problème. Et c'est aussi pour ça que j'avais repris mes études et tout, quoi. Et il y a des choses qui, pour moi, me semblent complètement aberrantes, quoi, d'arriver le matin au boulot à 9h05 avec 5 minutes, il y a des moustiques, d'arriver avec 5 minutes de retard et il est 9h05. Et puis, mais par contre, le soir, si je fais 3 quarts d'heure de plus ou 1 heure de plus, ça ne va pas les déranger, quoi. Donc, il y avait des choses, moi, qui me heurtaient vraiment. Ça ne collait pas du tout, quoi. Donc, et là, eh bien, à partir du moment où j'ai pris la décision de faire cette formation et de commencer ce job, il n'y a plus tout ça. Je travaille à la maison, parfois dans un bar en face de l'océan ou alors... quand je dois bouger, je prends mon ordi et je bosse. Là, peut-être que je vais aller passer 2 semaines chez une amie dans le Var. Je vais prendre mon ordi et je vais continuer à travailler parce que pour l'instant, je ne prends pas de vacances cette année. Mais j'ai l'impression quand même de... C'est bizarre, il n'y a plus de lundi, en fait. Quand on travaille en rédaction web, les lundis n'existent plus. Alors, les jours fériés n'existent plus non plus. Hein.
Oui.
Mais les lundis n'existent pas non plus. Et il n'y a plus cette espèce de dépression là, du dominical, j'allais dire... Allez, on va regarder le film du dimanche soir et puis on va bien avoir les boules parce que demain matin, il faut reprendre le boulot, quoi. Donc, ça n'existe plus. Voilà, parce qu'on travaille pour soi, parce qu'on choisit ses clients, parce que moi, je choisis mes clients, comme la plupart, je pense, des rédactrices et tout ça. J'en ai rencontré quelques-unes et c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Je ne savais pas que ça existait et vraiment, j'ai toute confiance en l'avenir de cette profession et sur le fait que ça va se développer. Ouais, vraiment. Mais c'est aussi une personnalité, je pense qu'il y a des gens qui sont, peut-être qu'il y a des gens qui ont la trouille aussi de se lancer. Moi, c'était mon cas avant, hein. Je ne me sentais pas prête, je pense aussi à me lancer à mon compte, et puis je n'avais pas l'idée, je ne savais pas quoi faire. Honnêtement, avant, je commençais déjà, l'idée commençait un peu à faire son chemin, j'ai failli m'installer dans tout ce qui est énergétique et tout ça, parce que j'ai un peu de fluide, donc je faisais des soins un peu énergétiques, je suis un peu de magnétisme et tout. Mais en fait, je me sentais que ce n'était pas ça. Du coup, j'en continue à en faire, mais de façon confidentielle avec ma famille, mes amis. J'en fais pas un métier. Voilà. Mmh. Et ouais, l'indépendance, c'est vraiment... Il faut en avoir envie. C'est une personnalité, mais une fois qu'on se lance, c'est génial, quoi, en fait. C'est vraiment bien. Après, moi, j'ai de la chance d'être aussi suivie au niveau administratif parce que j'ai des contacts aussi. J'ai travaillé à l'URSSAF, en fait, à l'époque, justement en RH, donc j'ai gardé des collègues qui sont là, qui m'ont bien aidé, tu vois, pour l'aspect administratif aussi, l'installation. Donc, ça, c'est cool. Et donc, je suis bien accompagnée, en fait, on va dire. Voilà. Et puis, il y a ma motivation et les gens que je choisis. Là, j'ai rencontré une personne qui est encore par une amie commune, en fait, qui est sur Paris. Et en fait, elle veut s'installer à son compte parce qu'à côté, elle est dans les services secrets. Elle est à l'antiterrorisme, en fait. Et donc, elle a été recrutée dans ce truc parce qu'elle a tout un parcours dans la psychogénéalogie, dans l'épigénétique et tout. Donc, c'est un truc, c'est pas bien-être, c'est pas du développement perso, c'est vraiment du niveau au-dessus, quoi, si je puis dire. Mais elle est aussi voilà, dans l'hypnose, un truc comme ça. Donc, je travaille aussi pour cette dame. On s'est rencontrés là à Bayonne le week-end dernier, tout ça. Donc, j'aime bien, enfin, il y a vraiment, mes clients, je les tutoie tous, en fait. C'est vraiment une approche qui est complètement différente de ce que j'ai pu connaître dans le milieu, j'allais dire corporate, quoi, hein, où là, il y a une espèce de respect complètement idiot de la hiérarchie, mais qui est débile, enfin, personnellement, que je trouve complètement idiot, quoi, en fait. Et travailler dans ces espèces de paniers de crabes, moi, je me suis plus abîmée qu'épanouie, en réalité. Et aujourd'hui, je travaille à la maison, je travaille avec des gens qui me respectent, qui respectent mon métier et qui apprécient ce que je fais. C'est complètement différent. Et en plus, ça me permet aussi quand même de pouvoir mettre en place des projets personnels. Là, pour la première fois, je pense que je peux envisager, parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la rédaction web. Je ne suis pas une grosse aventurière, je n'ai jamais été une grosse aventurière, mais j'ai bien envie que ça change, en fait. Et justement, c'est ce métier qui va pouvoir me permettre de faire... qui va me permettre de faire ça. J'ai envie de ça. J'ai vraiment envie de bouger, de prendre mon ordi et de bouger, quoi. En fait, c'est ce que je veux faire. Voilà.
Oui, le nomadisme digital est complètement envisageable. Ouais. Moi, je ne prends pas vraiment de vacances dans le sens où à chaque fois que je pars quelque part, je prends mon ordinateur. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression de travailler... Tu peux te lever tôt, travailler avant de commencer ta journée. Tu peux travailler le soir, ça dépend de l'énergie, bien sûr. Tu veux partir où ?
Alors, déjà, je pense qu'à l'automne, je vais partir un peu au Maroc parce que j'ai de la famille que je ne connais pas là-bas, donc je voudrais aller les rencontrer.
Super.
Donc, je pense que je vais aller faire un tour là-bas. Après, je rêve d'aller à New York. Je ne suis jamais allée, donc j'ai envie d'aller à New York. Enfin, j'ai des envies comme ça. Je suis partie en Roumanie en novembre. Mm-hmm. Donc, voilà, quelques temps et tout ça. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de bouger. Et puis, j'ai envie aussi, si tu veux, donc faire de la rédaction web. Et j'aimerais beaucoup aussi, comme tu dis, en fait, si on se lève tôt, on peut, tu vois, travailler le matin et l'après-midi consacrer peut-être à des projets humanitaires ou des choses comme ça, tu vois. J'ai aussi envie d'allier le voyage à ce genre de choses, qu'en fait. J'ai vraiment envie d'aller dans cette direction.
Tu as le woofing qui est très sympa où justement tu dois travailler en moyenne 4 heures par jour pour une ferme bio. Tu peux apprendre des coutumes locales, des jeux, des façons de faire.
C'est très intéressant. Parler,
ouais, tu peux en faire partout dans le monde. Ouais. Là, je pense qu'il y a des personnes, et peut-être à juste titre, hein, qui vont se dire « Bon, Patricia, elle est très adaptable, elle n'arrête pas de changer, elle a la tchatch, elle trouve facilement des clients, elle a changé de parcours professionnel plusieurs fois, elle a été commerciale. »
Elle est instable.
Donc, c'est normal. Elle écrit des bouquins en plus, donc c'est normal qu'elle réussisse. Et c'est vrai, c'est normal que tu réussisses parce que tu as les compétences rédactionnelles, l'aisance sociale et professionnelle, le mindset de l'entrepreneur, tu es bien entouré, tu as confiance en toi. Donc oui, tu as le profil de la rédactrice web qui réussit.
La confiance en moi, pas forcément si tu veux, parce qu'à chaque fois, je trouve que quand tu... j'ai quand même la trouille, quoi. Quand un client me dit « Ok, c'est parti, là, le coup du beefsteak, du faux filet, je ne suis pas hyper à l'aise quand même, hein, donc je ne te cache pas. » Il y a quand même tu vois, il y a quand même un enjeu aussi derrière. Est-ce que je vais réussir à décrocher le contrat ou pas, tu vois? Ou alors, là, le management de transition, c'est un gros morceau. J'ai un peu la truie quand même qui se disent, ouais, bon, j'ai pas envie de qu'il s'en aille. Quand je commence à nouveau, je fais pas signer de contrat. Moi, J'engage pas les gens dans des contrats, en fait. On travaille le temps qu'on a envie ensemble. Voilà, je préfère travailler comme ça. Mais il y a toujours quand même cette trouille de savoir si je vais être à la hauteur, si je vais arriver. Donc, mais quelque part, ce doute-là, il est quand même aussi, il est bénéfique. Donc, douter, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Le doute, heureusement qu'on doute, parce que sinon, si on avait un boulard comme ça, on va pas bien loin, je pense. Hein.
Oui, le doute est très, très important quand il n'est pas excessif.
C'est ça, exactement. En fait, je m'aperçois que quand on a vraiment un objectif, etc., je crois que la passion, l'envie, la motivation, ça transcende la peur, en fait. Donc, on y va. Même si on a la trouille, on y va. C'est comme ça, ça fait peur, ça truc, ça peut glacer un peu sur place. Mais en réalité, quand on a vraiment un objectif, on se lance, quoi. On y va. Parce qu'on se rend vite compte que faire du surplace, ça ne mène à rien et qu'on stagne et que finalement, on se retrouve comme un lion dans une cage et qu'on n'est pas heureux, quoi. Donc, du coup, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut oser y aller. Moi, si je puis me permettre, parce qu'effectivement, j'ai fait du commercial, etc. Mais pour celles qui n'ont pas ou celles et ceux qui n'ont pas été familiarisés avec l'aspect démarchage, parce qu'on peut être un peu intimidé par le fait d'aller prospecter, d'aller démarcher des gens. Mais il faut vraiment y aller avec du recul. Et comme disait Don Ruiz, tu sais, dans les quatre accords Toltec, ne jamais rien prendre personnellement. Si on vous dit non, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est pas votre valeur en tant que personne qui est remise en cause. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin d'un service comme ça, point. Et, ou alors les tarifs ne correspondent pas, mais on s'en fout, en fait, quoi. Dans ces cas-là, c'est next et on passe à autre chose. Parce que si c'est non avec un, ce sera oui avec un autre. Donc,
bien sûr.
Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vrai que c'est peut-être facile pour moi parce que j'ai fait ce métier pendant longtemps, mais quand j'ai commencé, moi, on m'a foutu au milieu d'une rue à dire là, maintenant, tu vois, tu te mets là et tu vas me trouver X maisons à vendre et tu vas prendre tant de contacts. Mais j'étais comme ça, je stressais, j'avais 20 ans, j'étais toute jeune et tout. Mais c'est hyper formateur. Mais vraiment, c'est ça ce que j'en ai retenu. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des gens. Si on vous dit non, on vous dit non, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il faut vraiment se détendre par rapport à ça. C'est vraiment... voilà, faut pas hésiter ou se poser 1000 questions et comment je lui dis, mais il faut y aller, faut se lancer. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, la question que je me posais, je fais par rapport à ce que j'ai ressenti, tu vois, quand je me posais des questions, si j'y allais ou pas, et le fait que les témoignages en vidéo sur ta chaîne YouTube que j'ai vus m'ont quand même pas mal incité à prendre ma décision, j'ai envie de dire la même chose. Il faut pas hésiter à se lancer parce que c'est vraiment un métier qui permet de changer sa vie, en fait. Et le fait est que ma vie a changé. Et c'est une réalité. C'est aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai 3 casquettes, hein, rédactrice web SEO, journaliste, pigiste et auteur. Ce qui me fait gagner ma vie, c'est la rédaction web SEO, c'est pas le reste. Voilà. Donc, c'est le reste, après, c'est du bonus. Tu vois, je suis... Voilà. Donc, c'est ce qui me fait gagner ma vie aujourd'hui, en fait, et ce qui va... Et c'est qu'un début, hein, parce qu'en réalité, je me suis installée en octobre, mais j'ai commencé à bosser que, on va dire, mi-janvier, la fin d'année, je me suis pas... Voilà, moi. J'ai commencé vraiment à développer, mi-janvier. Et je commence maintenant, en fait, à dégager voilà, un chiffre d'affaires qui commence à ressembler à quelque chose, quoi, en fait. Et donc, c'est la rédaction web aujourd'hui, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Donc, pour les gens qui hésitent, du coup, je suis passée de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Et ouais, on peut gagner sa vie avec la rédaction web. Il faut y aller, il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul, par contre, mais c'est comme tout, de toute façon, dans la vie. Ouais, faut travailler. C'est pas non plus Club Med. Hein. Parfois, il y a des enfin, c'est long. Hein. Il y a des journées qui sont longues, des articles compliqués. C'est pas un métier de tout repos non plus. C'est pas le Club Med. Faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un métier qui permet d'accéder à une certaine forme de liberté et à l'indépendance. Il y a des gens pour qui c'est un rêve. Ça l'était pour moi. Donc tous ceux pour qui c'est un rêve, eh bien, foncez. Voilà.
Mais super, ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. T'imagines pas à chaque fois comme ça me fait plaisir d'entendre ça, puisque c'est voilà, j'étais dans ce cas-là il y a 5 ans et j'ai voulu le partager, ouais. Et de voir autant, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à partager votre expérience, et c'est juste magique.
Ouais.
De voir cette réussite et cet épanouissement, c'est génial.
Merci à toi, parce que c'est toi, je pense que tu permets aussi à pas mal de gens de croire. Hein. Au fait que le monde du travail, il est quand même bien, il n'est pas terrible, en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué ce qui se passe. Hein. C'est la possibilité de croire en une autre forme de travail et de pouvoir accéder, voilà, à une certaine forme de liberté. Voilà, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de rester coincé dans un bureau, à être mal dans sa peau, à bouffer des antidépresseurs pour essayer de gérer son quotidien parce qu'on n'en peut plus. Il y a d'autres solutions, en fait. Il y a vraiment d'autres solutions. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, se dire que pour soi aussi, c'est possible et s'autoriser à se dire que moi aussi, j'y ai droit, moi aussi, je mérite, moi aussi, j'ai accès à ça. Et parce qu'il y a des gens qui sont coincés dans leur, un peu dans leur vie aussi professionnelle, ils se disent « ouais, mais non, machin ». Si, c'est possible, vraiment, c'est possible. Voilà, il faut juste… oser. Et l'avantage de ta formation, c'est qu'il y a un véritable… Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Il y a, pardon. Il y a un véritable accompagnement de la part de ton équipe. C'est vraiment des nanas qui sont impliquées et qui sont vraiment investies, qui sont pros aussi. Et du coup, on n'avance pas à l'aveugle en se disant « oh là là ». Il y a vraiment… j'ai fait pas mal de formations, hein, j'ai repris mes études et tout ça. Et autant j'étais complètement perdue pendant mes deux années master par correspondance, autant là avec cette formation, pendant 8 mois, j'ai envoyé un message à Audrey, elle était là, les coachings, etc., individuels, communs et tout. On n'est pas seul, quoi. Voilà. Même si tu es à X dizaines de milliers de kilomètres,
c'est bientôt
on sent
fini.
Que tu n'es pas loin, tu veilles sur nous comme une bonne mère.
avec l'équipe, voilà, on est sur plusieurs fuseaux horaires et puis l'équipe, ce sont tous des professionnels de la rédaction web, d'anciens ouais. élèves qui ont connu ouais. le même parcours que vous. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on est là et on œuvre tous. Notre objectif, c'est votre réussite. Donc, autant de personnes qui sont sur la réussite des élèves, ben, bon, ça donne des résultats qui nous satisfont. On est contents.
Ouais, bah, écoute, nous aussi, on est contents parce qu'on on y arrive. Donc, voilà, c'est chouette. Donc, ouais, c'est super.
Bon, ben, merci beaucoup, Patricia. Et j'en profite pour t'inviter lors d'une interview sur mon podcast Celle qui ose pour me parler de ton livre parce que ça m'intéresse vraiment. Et en plus, tu parles de sorcières, de femmes et tout. Donc, ça a vraiment sa place.
C'est mon thème de prédilection, ça. Eh ben, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir.
Ben alors, abonnez-vous aussi au podcast de Celle qui ose interview pour retrouver Patricia qui nous parlera de son livre L'ombre des immortels, mémoire de sorcière.
C'est ça. Mémoire de sorcière basque, ouais. Tout à fait.
Basque.
Ouais.
Basque. Merci beaucoup, Patricia. Et
merci à toi, Lucie.
Bonne rédac.
Merci. Bonne rédac. Et Tata, c'est ce que tata. Tu me disais.